Bienvenue à vous si vous nous rejoignez sur les ondes de Radio MDM. Je vais le faire dans l'ordre alphabétique pour résoudre le problème. Bonjour Aurélia.
Bonjour Jeannot.
Bonjour Céline.
Bonjour Jeannot.
Ah, c'est pour ça, pour vous accueillir, dit que ce serait un bon moyen de... Ben Aurélia Bartholomé, Céline Pinault, invitée des Matijanales, Céline Pinault de la Ligue de l'Enseignement et les rencontres en Grande-Lande. Aurélia Bartholomé de l'équipe, évidemment, du Théâtre des Lumières avec des partenaires spectacles ben, qu'on va vous présenter dans le calendrier des jours à venir. Alors Céline, cadre-nous le décor. Tiens, on va recommencer par toi.
D'accord. Et ben, le spectacle va avoir lieu à l'Esperon, donc sur le pays morsonnais, le vendredi 26 avril à 20h30. Et le spectacle, c'est Les enfants aussi font la guerre.
Alors, ce spectacle, évidemment,
Bartholomé.
Ça y est, je parle des prénoms et j'étais parti en cacahuète. Tiens, tu étais venu nous le présenter un petit peu presque au début de ce travail
de que la création,
initié
ouais,
du côté du Théâtre des Lumières. Tu peux nous recadrer un petit peu de ce décor-là.
Oui, 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 Les enfants aussi font la guerre. D'abord, c'est une pièce de théâtre de Jean-Manuel Florença. Et qui est une galerie de portraits. On en a sélectionné 22 sur 50. Il a fallu faire des choix. Et qui raconte... ce sont des souvenirs d'enfance de la Seconde Guerre mondiale racontés par des adultes. Et à travers ces récits intimes, on rentre évidemment dans la grande histoire, dans la grande histoire de la Seconde Guerre mondiale. Mais pour moi, ce qui m'a vraiment intéressée à travers ces récits intimes, c'est la question de l'enfance brisée par les conflits. Comment on survit, comment on vit après avoir vu l'innommable, comment on se construit après avoir vécu des traumatismes pendant la guerre. Donc ça, c'est une question très intéressante qui ressort beaucoup à travers les textes. Et quand on a monté ce spectacle, c'était... en période de confinement, on a commencé à travailler dessus. Les conflits en Ukraine, Russie, tout ça n'avait pas encore éclaté. Et maintenant, il était déjà d'actualité, mais il y a encore plus de résonance maintenant avec l'actualité.
Malheureusement, on a l'impression que c'est une thématique ou un sujet qui n'en finira plus d'être d'actualité. Ça, c'est clair.
C'est clair.
J'espère qu'un jour, il ne le sera plus d'actualité.
Ouais, mais... ouais, ouais.
Voilà, mais c'est vraiment une... au-delà du tragique, c'est vraiment une pièce sur la condition humaine. C'est pas une pièce sur la Seconde Guerre mondiale, c'est vraiment une pièce sur les histoires personnelles racontées de manière très subjective. L'histoire, c'est quelque chose d'objectif, la mémoire, c'est très subjectif. Et on rentre dans la mémoire de ces adultes qui racontent de manière très simple, à la manière de toutes ces personnes qu'on a rencontrées aussi en parallèle lors de notre collecte de mémoire, racontent ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont ressenti, comment ils se construisent en tant qu'adultes, après avoir parfois vécu des choses tragiques.
Sur la scène, Aurélia ?
Oui.
Qui sur la scène alors ?
Alors sur la scène, nous sommes quatre.
Ouais.
Nous sommes quatre, il y a trois comédiens, un homme et deux femmes, et une violoncelliste. Alors la violoncelliste, évidemment, n'était pas proposée dans l'écriture du texte. Moi, mon travail en tant que metteur en scène, et dans la construction de la dramaturgie, c'était de créer un lien entre tous ces portraits, tous ces personnages qui successivement viennent s'adresser au public. Et j'avais très envie de la présence en direct du violoncelle. D'abord parce que le violoncelle est un instrument qui touche directement à l'âme et au cœur. On dit que le violoncelle, c'est le son d'un instrument qui se rapproche le plus du timbre de la voix humaine. C'est pour ça qu'il touche beaucoup la sensibilité. Et ce personnage, cette violoncelliste est devenue un personnage qu'on a nommé Mnemosyne, qui signifie mémoire en grec, et qui est omniprésent sur le plateau. Et par sa musique, elle fait surgir du passé des personnages de différentes nationalités, de différents âges. et qui, à tour de rôle, vont donc livrer leur histoire personnelle. Mais ce violoncelle aussi est là pour aider à coucher, parce qu'on sait souvent que quand on a vécu des conflits, des choses dramatiques, on l'a peut-être parfois vu dans nos familles, les personnes n'arrivent pas à raconter parfois ce mur dans le silence, parce que trop douloureux ou parce qu'on ne veut pas transmettre à sa famille les douleurs vécues. Et ce violoncelle, il est aussi là pour aider à accoucher cette mémoire. Voilà. Donc il y a vraiment un lien très fort entre musique et texte. Pour moi, il était important qu'au niveau de la musique, ce soit une musique plutôt contemporaine, puisque j'ai quand même fait un choix au niveau de la mise en scène, que ce soit intemporel. C'est pas au niveau des costumes, etc. On n'est pas, et du décor, la scénographie, on n'est pas dans la période de la Seconde Guerre mondiale. C'est quelque chose plutôt d'intemporel. Et la musique est contemporaine. Il s'agit d'une pièce entière qui est jouée. Ça, c'est très intéressant. Une pièce de Philip Glass qui s'appelle Poem and Songs, un compositeur américain, toujours vivant, et dont l'œuvre musicale m'a intéressée par sa spécificité qui est la récurrence. C'est une musique très répétitive. Il a créé, c'est sa spécialité, Philip Glass. Et à travers cette musique et ce côté répétitif, il m'a intéressé de montrer la répétition des faits de guerre.
Ouais, donc ça contribue fortement à l'atmosphère.
Oui, pardon.
J'allais dire, ça contribue fortement à l'atmosphère de cette pièce que ça accompagne de Philip Glass.
Bien sûr.
Juste pour l'anecdote, nous on l'écoute assez régulièrement dans les matinales et sur les ondes de radio MDM parce qu'on est assez amoureux aussi de l'univers musical de Philip Glass. Céline Pinault qui très sagement levait le doigt. J'allais te poser la question aussi, Céline, de savoir cette collaboration pour la Ligue de l'Enseignement, c'est encore contre en grande lande avec le théâtre et lumière dimanche quelques mots aussi alors de ce que tu voulais me dire quoi moi
d'accord oui, parce que tu m'orientes légèrement ailleurs
ouais pardon.
Mais il y a pas de souci moi ce que j'avais envie de dire c'est que ce qui m'a intéressé quand j'ai vu Les enfants aussi font la guerre c'est que ça fait écho à nos axes de programmation au niveau de la programmation tout public rencontre en grande lande c'est-à-dire que il y a la question de l'intime il y a la question du politique et comment les deux en fait se mêlent et moi j'ai trouvé qu'à la fois le texte était fort par rapport à ce qui était dit et ce qui était raconté, mais qui avait quand même des, on va dire, des fenêtres d'espoir que moi je mets dans la libération de la parole, parce que pour moi c'est un acte politique. Et raconter, c'est aussi se libérer, et c'est aussi dire ça ne se reproduira pas. Ou faisons tout notre possible ensemble pour pas que ça ait lieu. Donc même si c'est pas dit, je trouvais que ça amenait à ça. Et effectivement, tu as raison, Aurélia, c'est que le travail de la musique apporte vraiment, du moins, ça fait un objet d'art complet en fait. On est vraiment immergé dans un autre endroit et on vous suit totalement.
Oui, tout à fait. Et c'est vrai que par rapport à ces lueurs d'espoir et de questions de transmission, d'abord, ça fait partie aussi, nous, de notre travail autour de la pièce et des actions de médiation, puisqu'on est là dans la... On va en reparler avec Céline, mais c'est une pièce qu'on joue beaucoup en scolaire et on est là aussi pour transmettre une histoire pour pas qu'elle s'oublie et parce que les jeunes sont porteurs d'espoir, hein. Mais c'est aussi dans la pièce aussi il y a quand même parmi le choix des textes, tu parlais d'espoir, nous on termine quand même avec des textes d'espoir, on parle d'amour et on parle aussi de la question de justement de la transmission. On termine par un père qui a vécu cette période là et qui dit faut-il que je raconte ou faut-il que je garde pour moi? Et il dit, il faut que je raconte parce qu'il faut qu'il sache, parce que quand on est averti, on peut peut-être agir pour un monde meilleur, entre guillemets. Hein, ah, voilà.
Ah, et c'est de la difficulté, comme tu l'évoques aussi, parfois de la parole, justement, des gens, des témoignages que l'on retient, parce que difficile à dire, difficile à exprimer, de l'importance de tout ça, Aurélia.
Oui, tout à fait, c'est ça.
Tu parlais donc des rencontres que vous avez eues depuis la création de cette pièce avec les différents scolaires. Vous avez pas mal essaimé autour de nos Gascon Country, mais pas que. Comment ça se passe en général? C'est tout le temps un petit peu les mêmes réactions? Est-ce que c'est diversifié sur l'accueil des jeunes, la façon dont ça se passe, dis-moi?
Alors, en général, les scolaires se passent extrêmement bien. On a une très belle écoute. Mmh. Parce que malgré tout, c'est une pièce qui demande de l'écoute. Puisqu'on est dans de l'adresse directe, ce sont des personnages qui nous racontent sans quatrième mur leur histoire. L'accueil a toujours été très 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 positif, d'autant plus qu'on a toujours un dispositif en amont et aussi en aval, mais essentiellement en amont, pour préparer les jeunes à la venue de la représentation. Moi, je les rencontre aussi pour leur parler un peu du sujet, hein, qui est l'enfance et la guerre. Les enfants, quand même, qui sont les premières victimes lors des conflits. La dramaturgie, les éléments dramaturgiques auxquels ils vont découvrir et auxquels ils peuvent se raccrocher, avec des thèmes, des accessoires très récurrents, comme la valise, par exemple, qui est chargé de symboles. Et nous, le plus beau retour, souvent qu'on nous fait, c'est si tous nos cours d'histoire pouvaient être comme ça. Donc on est ravis. Et puis il y a eu des moments magiques. C'est vrai qu'une représentation, on a eu plus de 250 élèves qui n'étaient jamais allés au théâtre. Et il y a eu une écoute extraordinaire. Donc on se dit, voilà, c'est un spectacle qui touche d'abord au cœur. Hein, c'est surtout ça. C'est pas du tout un spectacle plombant, entre guillemets. C'est-à-dire que le sujet est grave, mais la manière dont on l'a traité, la manière dont on le joue, n'est pas du tout dans le tragique. Elle est comme moi, je te parle. Mmh, comme quand tu rencontres un témoin qui, lors des collectes, ils mettent de la distance, ça n'empêche pas l'émotion, mais... on est dans un rapport simple.
Ce dispositif, Céline, ce sera le cas le vendredi 26 avril pour la présentation, un peu le cadre du décor qui sera proposé.
Oui, ce sera joué à l'Esperon, donc il y aura la proximité, parce que c'est une salle qui n'est pas très grande, mais dans laquelle on va avec les rencontres en Grande-Lande une fois par an, et on a proposé des choses qui étaient tout aussi exigeantes techniquement, en fait. Après, c'est toujours l'itinérance et les salles rurales, du moins les petites salles qui ne sont pas équipées. Donc il y a toujours de l'adaptation, mais il n'y a pas de souci. Et il y a cette proximité. Moi, ce que j'avais envie de rajouter par rapport à ce qui se disait, c'était aussi que c'est le spectacle, je trouve, pas manichéen, parce qu'il y a des enfants de victimes, entre guillemets, et il y a aussi des enfants de ce qu'on pourrait appeler les bourreaux, au niveau du côté nazi. Et ça, je trouvais que c'était bien aussi. C'est-à-dire que les conséquences, en fait, sur les enfants, elles existent, quel que soit le rôle qu'avaient les parents.
Et ça, c'était un parti pris pour quand vous avez créé ce spectacle.
C'est-à-dire que ce sont des textes qui sont présents dans la pièce qu'on a choisi. Et c'est vrai qu'il y a le volet de l'héritage. Que fait-on de l'histoire de nos parents quand on est fils de bourreau? Est-ce que le fils doit être condamné pour les actions de leur père ou pas? Voilà, ce sont des questions qui sont soulevées, hein, qui sont passionnantes, qui interpellent les jeunes aussi. Hein. Et puis il y a aussi la question du traumatisme transgénérationnel, c'est-à-dire des personnages qui viennent, qui n'ont pas vécu la Seconde Guerre mondiale. À un moment donné, moi j'incarne une jeune femme qui s'appelle Martha et qui est devenue journaliste et dont les parents ont réchappé au camp et qui a vu ses parents vivre à la sortie de ces camps et après avoir commencé à se reconstituer, vivre dans la terreur, hein, parce qu'il y a un traumatisme ancré en eux. Et elle hérite de cette histoire. Et elle s'en sent dépositaire, en fait. Donc, c'est la question. Est-ce que je suis dépositaire de l'histoire de mes parents ou pas? Et elle est devenue journaliste et elle suit, en fait, dans sa vie, tous les procès des criminels de guerre. En fait.
Elle s'est particulièrement intéressée sur cet héritage-là, ouais, voilà, forcément. Ouais. Quoi. Céline, tu veux rajouter quelque chose sur
Non, mais moi, je trouvais que c'était justement que ça aborde énormément de questions et qu'on ressort grandi, en fait. Et qu'on ressort... Moi, je suis ressortie, mais en même temps, je suis plutôt quelqu'un qui a envie de prôner la paix. Mais ça assoit cette évidence, en fait, Donc, je trouve que c'est plutôt très positif, ça.
Très positif.
Rappelez-moi alors, le vendredi 26 avril, à l'Espérance, Céline.
Oui, c'est 20h30.
20h30, donc à la salle...
C'est la salle qui est en face de la mairie, et c'est la seule, je pense que, du moins, c'est la seule salle des fêtes de la commune.
D'accord.
C'est le foyer rural de mémoire.
À pas louper donc, parce que je suis allé à l'Espérance.
Eh bien, il faut que tu viennes, Jeannot.
Oui, je sais qu'à chaque fois, mais tu sais qu'on a un emploi du temps particulièrement chargé.
Je sais bien, mais toi, je retente.
Oui,
n'hésitez pas à venir, et si vous avez envie de faire du covoiturage depuis Mont-de-Marsan, n'hésitez pas à en faire. Ou peut-être que ma collègue peut, même s'il y a des gens qui s'inscrivent sur l'adresse mail de la Ligue ou qui appellent, on va dire demain ou jeudi et vendredi, l'adresse mail c'est culture@laligue40.fr. Il ne faut pas hésiter à demander éventuellement un covoiturage, et si on peut l'organiser, on vous le fera avec plaisir.
Ouais, parce que ça peut s'organiser assez facilement dans la famille de la Ligue de l'Enseignement. Donc le spectacle vendredi 26 pour le Théâtre des Lumières. Il y a d'autres rendez-vous, j'imagine, de prévu autour de
les prochains rendez-vous, là, c'est le 17 mai. Alors là, on va faire un apéritif lecture sur le sport et la littérature.
Ah, c'est vrai.
Et c'est passionnant, parce qu'on a découvert des tas de textes sur la course, la boxe, le rugby, le foot, avec des écritures magnifiques, parfois très drôles. Donc on va essayer de faire découvrir un peu tout ça à nos spectateurs qui viennent régulièrement aussi à nos apéritifs lecture. Là, c'est le 17 mai, à l'Atelier AT.
Comme qui surveille une approche des Jeux Olympiques, peut-être.
Oui, c'est ça, évidemment, on fait un clin d'œil aux JO, évidemment.
Tu as de tête quelques auteurs comme ça, ou pas du tout Non, laisse tomber.
J'ai travaillé hier, mais
Laisse tomber. Non, mais c'est juste parce que, comme j'ai eu quelques lectures comme ça autour de ces aventures, et puis c'est vrai qu'il y a eu la disparition d'André Boniface la semaine dernière, qui a été saluée par une belle plume, celle d'Antoine Blondère, celui qui a écrit le Saint-Jean d'hiver, qui était un amoureux transi des frères Bonny qui suivaient le Tour de France. Voilà, ça m'est venu comme ça.
Mais il y aura des textes de Blondin aussi, de toute façon.
Tout à fait. Voilà. Toutes ces plumes, évidemment, l'univers sportif. Le prochain Atelier AT, donc le 17 mai.
À 19h30.
Lecture. Et puis la Ligue de l'Enseignement et ses rencontres en Grande-Lande, Céline, donc ce rendez-vous.
Après, c'est le samedi 25 mai.
Ouais.
Et ça s'appelle le dispositif Bibliothèque Humaine. Et là, on rejoint ce que disait Aurélia précédemment. On est sur des récits intimes. Et en fait, on a mis au travail 8 personnes qui vont raconter un récit intime chez des habitants qu'on n'a pas encore été chercher à Pontonx. Et donc, les spectateurs pourront emprunter les livres humains, les écouter, mais ils ne pourront pas tous les écouter, normalement. Mmh. Et la librairie ou dans la bibliothèque humaine, justement, sera ouverte 2h30 le samedi 25 mai. Donc, elle sera ouverte normalement de 18h à 20h30.
Et si je me souviens, tu étais venu lancer l'appel sur nos endroits.
J'étais venu lancer l'appel, on avait eu plein d'inscrits. Après, il y a des gens qui se sont désengagés, mais on avait nos 12 personnes sans souci.
Très bien.
Donc après, il y a moins de participants au final, mais c'est très chouette parce que je fais partie du dispositif vu qu'on voudrait l'animer différemment l'année prochaine, donc je suis aussi un livre humain.
D'ici là, tu reviens nous faire un petit coucou.
Oui, je viendrai vous faire un petit coucou.
Hein, c'est ça, les saisons en rencontre en Grande-Lande que l'on suit, évidemment, sur Radio MDM. Merci beaucoup, Aurélia.
Avec grand plaisir.
Et puis, belles aventures sur cette presque fin d'année du Théâtre des Lumières, atelier, tout ça.
Oui, le mois de juin va être bien rempli.
Spectacle,
là,
quoi.
15 spectacles au mois de juin. C'est on va être à fond.
Et on décortiquera le calendrier sur les ondes. Merci beaucoup, Céline Pinault.
Merci à toi.
À très vite. Alors, j'ai cherché Philippe Glass, malheureusement, je ne l'ai pas. Tu me le rappelleras, c'est quoi le poème
And Songs.
Parce que ça ne me dit rien, il faut absolument que je découvre.
C'est une pièce musicale qui dure 25 minutes.
Il a un univers musical dingue, Philippe.
Dingue.
C'est dingue.
C'est une pièce écrite pour violoncelle.
Alors, on va faire malgré tout résonner un violoncelle. Celui de Rostropovitch, je me suis dit que c'était pas mal aussi. Une petite suite de Bach, ça peut le faire aussi quand même.
Avec grand plaisir.
Merci beaucoup, à très vite, au revoir.
Au revoir.